Bonjour à toutes et tous. Je vais commencer par un témoignage qui passe sans avoir quelques échos avec celui que nous a partagé Jean-Haut déjà. Nous sommes en septembre 2003, il y a 20 ans. Sylviane, mon épouse, est enceinte de notre premier enfant. Nous venons juste de nous installer à Metz. J'ai fini mes études, j'ai mon premier job. Et le moment est venu de faire la deuxième échographie. On prend rendez-vous chez une gynécologue, sans recommandation, hein, on a trouvé son adresse. L'examen se déroule plutôt bien. Et tout à la fin, le médecin nous dit une phrase avec des termes médicaux qu'on ne comprend pas. On lui demande de répéter, on lui demande de préciser. Puis elle nous dit « J'ai pas pu voir l'œsophage de votre bébé. Dans le pire des cas, elle n'en a pas et il faudra opérer à la naissance. » On verra ça à la prochaine échographie. On était encore jeunes à l'époque. On ne savait pas quoi répondre. On était un peu sous le choc. La visite se termine, on part. Et rapidement, l'inquiétude grandit. Elle se transforme en angoisse. Et l'incertitude sur la santé de notre enfant nous obsède. Et on rentre dans un temps d'attente, l'attente de ce prochain examen, pour confirmer ou infirmer cette première impression ou diagnostic du médecin. Attendre. Attendre, c'est, je pense, une réalité qu'on connaît toutes et tous. On peut attendre pour plein de choses dans nos vies. Est-ce que les personnes qui ont reçu un petit papier veulent bien lire les différentes choses qu'on peut attendre? Normalement, il y a un petit numéro. Alors, est-ce que la personne qui a le 1 bien commencer, puis ensuite, allez-y. Hein.
Attendre de rencontrer une personne qui pourrait devenir mon conjoint ou ma conjointe. Attendre la paix en Ukraine, en Arménie et au Proche-Orient. Attendre la naissance d'un enfant. Attendre le résultat d'un examen médical.
Attendre de trouver les études et le métier qui nous correspond.
Attendre une amélioration dans la relation de couple. Attendre un changement dans ma relation avec Dieu. Attendre le retour de Dieu.
Attendre de partir en retraite.
C'est déjà fait. J'aurais peut-être pu mettre attendre la fin de la prédication, mais je ne l'ai pas mis. Hein. Attendre, c'est une situation, un état qu'on est amené à vivre très souvent, presque en permanence, dans toutes les dimensions de notre vie. Comment est-ce qu'on vit l'attente? Pour moi, pour mon épouse, en septembre 2003, c'est les sentiments d'impatience, le sentiment de perdre son temps, d'inquiétude qui se sont imposés, une certaine passivité. Et je vous propose de voir à travers le texte qu'on va lire et méditer ensemble ce matin quelques pistes pour vivre les temps d'attente dans nos vies. C'est le tout début de l'évangile de Marc, les 15 premiers versets qu'on va lire dans la version Semeur et que je vais aussi afficher derrière moi. Marc, évangile de Marc, chapitre 1. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. « J'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. » On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. « Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. » Jean parut. Il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poils de chameau, maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. Après moi va venir quelqu'un de plus puissant, qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui vous baptisera dans le Saint-Esprit. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait : Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Je relis le dernier verset, qui sont les toutes premières paroles dans l'évangile de Jésus, dans l'évangile de Marc. Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Le temps est accompli, peut-être que dans vos versions, vous avez « le moment est arrivé ». Ce qui veut dire « l'attente est terminée ». Ça y est, le moment est venu. Et le règne de Dieu, ou le royaume de Dieu, c'est une expression que Jésus n'a pas inventée, qui était bien connue, déjà lorsqu'il l'utilisait, tout de suite au début de son ministère. Et pour ses auditeurs juifs, l'idée de royaume ou de règne de Dieu, c'était surtout l'idée que Dieu allait intervenir pour son peuple, pour sauver, une action décisive. Donc Jésus, dans ses premières paroles, vient de dire qu'une longue attente est terminée, qu'il y a une bonne nouvelle, que Dieu agit selon ce qu'il a promis. Et cette vérité qu'on trouve au verset 15, elle va nous servir de base pour mieux peut-être comprendre ce qu'on peut vivre dans des périodes d'attente dans nos vies. Comment on peut aller peut-être à l'encontre des sentiments qui ont été les miens, notamment, il y a une vingtaine d'années, dans cette période d'incertitude, des sentiments d'impatience, de perte de temps, d'inquiétude, de passivité qui nous assaillent si facilement. Je vous propose de voir trois enseignements à partir de ce texte pour nos vies. Le premier, c'est que parce que Dieu agit et qu'il accomplit ses plans, l'attente, c'est d'abord la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Ensuite, parce que Dieu agit et qu'il accomplit ses plans, l'attente, c'est un temps de préparation. Et enfin, parce que Dieu agit et qu'il accomplit ses plans, on peut vivre ce temps d'attente dans la confiance et de manière active. Si vous avez déjà lu les différents évangiles, vous avez remarqué qu'aucun ne commence de la même manière. Puis, même dans la suite, il y a des fois des similitudes, mais il y a quand même des différences assez importantes. Et la particularité de l'évangile de Marc, qu'on vient de lire, c'est que Marc ne fait pas vraiment d'introduction. Matthieu, ça commence par des généalogies. On va replacer la naissance de Jésus dans une longue histoire. Luc, c'est les textes qu'on va bientôt commencer à lire avant Noël. C'est les textes de la naissance, de l'annonce. Les bergers, les mages, ça, on ne le trouve que chez Luc. Et puis Jean, c'est cette belle grande introduction, ce survol extraordinaire qui nous fait d'une méditation sur Dieu qui vient parmi les hommes. Chez Marc, il n'y a rien de tout ça. Alors, est-ce que Marc n'a pas les mêmes sensibilités littéraires que ses collègues? Est-ce qu'il est moins doué pour écrire? En fait, Marc, c'est exactement ce qu'il fait. On a l'impression qu'il va directement à l'essentiel, mais en fait, Marc cite deux versets qui sont issus de l'Ancien Testament. On nous dit que c'est du prophète Ésaïe. Alors effectivement, le verset 3, c'est le prophète Ésaïe, mais avant le prophète Ésaïe, il cite un autre prophète qui est moins connu, qui s'appelle Malachie. Et Malachie, la particularité, c'est que c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, verset 1. « Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers, j'enverrai mon messager pour m'ouvrir le chemin. » Et c'est ce verset-là que Marc reprend. Un verset qui est dans le dernier chapitre du dernier livre de l'Ancien Testament se retrouve dans le premier chapitre, quasiment le premier verset de l'évangile de Marc. C'est comme si Marc, il reprend le stylo, ou la plume à l'époque, le kalam, pour reprendre un terme technique, que Malachie avait posé 300 ans avant. Marc le reprend et dit « Voici celui qui arrive ». Il y a 300 ans entre Malachie et Marc, 300 ans pendant lesquels la plume, l'encre est restée sèche, 300 ans pendant lesquels Dieu n'a pas suscité de prophète, n'a pas envoyé de parole à son peuple. Et pourtant, le peuple d'Israël a été confronté à des défis extraordinaires pendant ces 300 ans. On les connaît par d'autres livres qui ne sont pas dans notre Bible. Il y a eu des invasions, il y a eu des guerres, des massacres, malheureusement déjà. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Et Dieu a été silencieux pendant ces 300 ans. Et tout à coup, le rythme s'accélère. Tout à coup, Jean-Baptiste arrive. Et puis Jésus vient se faire baptiser et commence à annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas 100 ans avant? Pourquoi pas 100 ans après? On peut essayer de trouver des raisons. Il fallait qu'il y ait la paix de l'Empire romain, qu'il y ait des voies de communication. Enfin, tout ça, c'est des raisons qui ont été avancées. Mais fondamentalement, on ne sait pas pourquoi il y a eu 300 ans avant que Dieu accomplisse son plan. Le peuple d'Israël, dans cette attente, il expérimente que c'est Dieu seul qui décide du calendrier. C'est Dieu seul qui sait quand le moment est venu, quand le temps est accompli. Dans nos vies, on peut attendre que Dieu agisse, qu'il réponde à nos prières. Et les causes pour lesquelles on prie, pour lesquelles on demande à Dieu d'agir, elles sont légitimes, très souvent. Et pourtant, nous ne pouvons rien faire pour accélérer les choses. Et ça va tellement contre l'idée qui est présente dans notre société contemporaine, hein, qu'on maîtrise les éléments. Vous avez peut-être, si vous suivez l'actualité politique, il y a quelques années, on a vu apparaître l'idée de maître des horloges. Le maître des horloges, c'est pour certains hommes politiques l'idée qu'on maîtrise le calendrier, on maîtrise la façon dont on va présenter les choses dans des interviews, dont on maîtrise le tempo, le timing des réformes, etc. Mais bien souvent, en fait, la réalité vient se heurter à ce plan qui a été imaginé. Décider du timing, ça vise à avoir un sentiment de maîtrise, mais en fait, c'est une illusion. On n'est pas maître du calendrier, on n'est pas le maître des horloges, il n'y en a qu'un, c'est Dieu. Et l'exemple du peuple d'Israël qui a attendu 300 ans avant qu'un prophète soit de nouveau suscité par Dieu, nous invite à reconnaître ce fait, que c'est Dieu qui sait quand le temps est mûr, quand le temps est accompli. Et pour ce qui me concerne, en septembre 2003, j'ai dû apprendre que le temps de Dieu n'était pas le mien, et qu'il ne servait à rien de manifester de l'impatience. Et face à l'impatience, j'ai dû découvrir effectivement que Dieu reste souverain du timing, du tempo, du rythme. L'attente dans nos vies, elle peut concerner une réponse qu'on attend de la part de Dieu, mais elle peut aussi concerner notre propre engagement. Et dans le texte de ce matin, on voit deux hommes, Jean-Baptiste et Jésus, qui ont dû attendre. Ils avaient à peu près le même âge. On sait qu'ils étaient en parenté, puisque leur maman, Élisabeth et Marie, étaient cousines. Enfin, on ne sait pas exactement quel est le lien de famille précis, mais il y avait un lien de parenté. Et c'est deux hommes qui vont jouer un rôle clé dans le plan de Dieu. Et pourtant, ils ont attendu d'avoir 30 ans pour commencer leur ministère, pour s'adresser à leurs contemporains. Et dans le cas de Jésus, c'est quand même fou de se dire que le Fils de Dieu était présent, il vivait à Nazareth, il coupait des poutres et des planches, il était charpentier. Pendant des années et des années, on savait qu'il était sage, puisque à 12 ans, il est allé dans le temple et il a déjà pu enseigner. Donc à 12 ans, il avait déjà Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé entre 12 ans et 30 ans? Il y avait tellement de gens à encourager, tellement de bien à faire, de personnes à guérir. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Couper, réparer des portes, construire des armoires, des étagères. Est-ce que ce n'est pas du temps perdu tout ça? Et puis, une fois que Jean-Baptiste, que Jésus et Jean-Baptiste se rencontrent, que fait Jésus? Il va 40 jours dans le désert. 40 jours dans le désert. Pourquoi il n'a pas tout de suite commencé? Il venait de recevoir le Saint-Esprit. Allez, c'est le moment d'y aller. En fait, Jésus attend que Jean-Baptiste soit arrêté, soit mis en prison. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va commencer à parler de la bonne nouvelle. De notre point de vue, avec le recul, on sait que cet enchaînement entre le ministère de Jean-Baptiste et de Jésus a beaucoup de sens. Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Il vient terminer un chapitre de l'histoire du monde, le chapitre que Dieu avait prévu avec des prophètes. Et Jésus, lui, il vient inaugurer le royaume de Dieu. Un changement extraordinaire. Et c'est juste le baptême où les deux se rencontrent. Ça a duré peut-être une heure ou deux. Et là, on a un passage de relais. Donc, de notre point de vue, ça fait du sens. Mais pourquoi Jésus a attendu aussi longtemps? Je pense que là aussi, c'est difficile d'avoir la réponse définitive, mais certainement que pour Dieu, pour Jésus, c'était important d'avoir un métier, de se former, de développer sa connaissance des Écritures, sa relation avec son Père. Et si Jésus a attendu 30 ans, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire avant 30 ans. Hein. Tous ceux qui sont là et qui sont plus jeunes, surtout ne voilà. Mais dans le cas de Jésus, ça, c'était important qu'il y ait ce temps de préparation, ce temps de formation. Il a attendu que Jean-Baptiste soit en prison parce qu'il fallait qu'il soit au bon endroit, au bon moment. Alors, Daniel n'est pas là, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres amateurs de football. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de ce joueur? Jonathan Clauss. Bravo, Jonathan Clauss. Moi, je n'aurais pas pu répondre, je ne le connaissais pas il y a encore un mois ou deux. Jonathan Clauss. Alors, c'est un joueur d'origine alsacienne qui a une histoire assez particulière. C'est l'histoire de quelqu'un qui a dû beaucoup, beaucoup attendre. Il est fan de foot depuis qu'il est jeune. Il a été formé pour être footballeur professionnel. Et en fait, pendant une dizaine d'années, il était dans les 6e championnat en Allemagne. Il a joué à Raon l'étape. Vous imaginez quand même Raon l'étape. J'aime beaucoup hein, c'est cette ville, mais voilà. Et il a attendu d'avoir 28 ans pour signer dans un club de Ligue 1. Il a attendu d'avoir 30 ans pour être appelé en équipe de France. Ce qui, pour un footballeur professionnel, c'est presque la pré-retraite. Hein. Est-ce que toutes ces années, pour Jonathan Clauss, où il a joué dans des matchs de 4e, 5e division, c'est du temps perdu? Je suis pas à sa place, je peux pas répondre, mais je pense que non. Je pense que c'était un temps où il a pu se préparer pour exercer maintenant le rôle qu'il joue dans l'équipe de France. Peut-être que toi aussi, tu es dans un temps de préparation, que Dieu a des grands plans pour toi, des choses en réserve, et ça c'est certain, et qu'il est en train de travailler ton caractère, tes compétences, tes relations. Ne pense pas que le temps d'attente soit un temps perdu. Attendre n'est pas forcément synonyme de temps perdu. Et hier, sur Internet, j'ai trouvé cette citation du pasteur anglais Nicky Gumbel. Joseph, c'est en anglais, hein, mais Joseph a attendu 13 ans. Abraham, 25 ans. Moïse, 25 ans. Jésus a attendu 30 ans. Si Dieu te fait attendre, on peut dire que tu es en bonne compagnie. Et pour ma part, en septembre 2003, j'ai eu à prendre conscience que Dieu cherchait à m'enseigner quelque chose par ce temps d'attente. À faire grandir ma confiance, à faire grandir ma foi. Alors peut-être que ces premiers conseils ou ces premiers enseignements peuvent paraître un petit peu secs. Reconnais la souveraineté de Dieu, considère ça comme un temps de formation, de préparation. Et je pense que le texte nous permet d'aller plus loin et de voir aussi dans quel état d'esprit on est appelé à vivre ces temps d'attente. Et cet état d'esprit, je pense qu'il est caractérisé par deux aspects, la confiance et l'action. D'abord dans la confiance, pas dans la fébrilité ou l'inquiétude. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais cette confiance qu'on peut avoir dans les temps d'attente, elle s'appuie sur ce verset 15 de l'évangile de Marc. Je vais afficher la première partie. Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. On a déjà vu que l'idée de règne de Dieu, de royaume de Dieu, c'est que Dieu va agir pour le bien de son peuple, pour le sauver, pour vaincre le mal. Et Jésus annonce ce royaume. Jésus est le royaume de Dieu d'une certaine manière. Là où est Jésus, là est le royaume de Dieu. Et le temps est accompli. Jésus utilise ici un mot grec qui n'est pas le mot qu'on utilise pour parler du temps qui passe, qui est le mot chronos, qu'on va utiliser dans chronomètre par exemple. Il utilise un autre mot, qui est le mot kairos, qui veut dire le bon moment, le moment favorable, le moment décisif, propice, opportun. Jésus dit que le bon moment est arrivé. Dieu agit au bon moment pour sauver son peuple, dans l'histoire avec un grand H, mais il agit aussi au bon moment dans ta vie, dans nos vies. Et on peut avoir pleinement confiance que Dieu va agir. Et pour ça, je vous propose un petit moyen pour s'en rappeler quand on doit attendre. On rajoute juste une petite lettre devant attendre. Et ça devient s'attendre. S'attendre à Dieu. S'attendre à l'action de Dieu dans nos vies. Quand on attend, attendons-nous à Dieu. Et pour moi, ça a été, il y a 20 ans, essayer de faire confiance à Dieu pour ne pas me laisser submerger par l'inquiétude et par l'angoisse. Être dans la confiance envers Dieu, m'attendre à lui. Une attente confiante, mais aussi une attente active. Si on reprend le dernier verset, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et croyez. Changez et croyez. Quand Dieu agit, il y a une réponse qui est attendue de nous. Dieu n'agit pas à notre insu et il ne va pas nous forcer la main, jamais. Quand il agit, c'est toujours au bon moment, mais après c'est à nous de saisir aussi ce moment, d'être prêt à y répondre, à nous mettre en route. Je regarde les parents de Manon, parce que je pense que ce tableau, ça vous rappelle quelque chose. Dans le parcours Alpha, c'est un tableau qui est présenté dans une des séances du parcours Alpha. C'est un tableau qui n'est pas très connu en France, mais qui est très très célèbre en Grande-Bretagne, qui a été peint au milieu du 19e siècle, qui s'appelle « Lumière du monde ». Alors, c'est une manière de représenter Jésus qui peut nous paraître un petit peu ancienne ou datée. Mais on voit Jésus qui se tient devant une porte, qui frappe. Ça renvoie à un message de l'Évangile, où Jésus utilise cette image-là de frapper à la porte du cœur. Et la particularité de cette porte, telle que l'a dessinée le peintre qui s'appelle Hunt, c'est qu'elle n'a pas de poignée à l'extérieur. Jésus ne peut pas ouvrir la porte. Alors, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais vous irez regarder sur Internet. Jésus ne peut pas ouvrir la porte. La poignée, elle se trouve de l'autre côté. C'est à la personne d'ouvrir la porte. Et ce tableau, on l'utilise souvent pour parler de la première rencontre avec Dieu, avec Jésus, ce qu'on appelle aussi la conversion. Mais en fait, ce tableau-là, il est valable tout au long de notre vie, dans toutes les situations. Quand Dieu agit, il agit dans nos vies, il se tient près de nous. Et quelle est notre réponse ? Est-ce que on est prêt à saisir sa main, à ouvrir la porte. C'est ma responsabilité de pouvoir répondre. Est-ce que Dieu est en train d'agir dans ta vie? J'en suis persuadé. Comment? Dans quels aspects, dans quel domaine de ta vie il agit? Ça, c'est toi qui le sais. Moi, je t'encourage, sur la base de ce texte, à répondre positivement à ce que Dieu fait dans ta vie, à essayer de discerner son action. Et en septembre 2003, j'ai pu apprendre que le temps d'attente n'était pas un temps de passivité, mais que Dieu agit dans nos temps d'attente. Il nous a permis avec Sylviane d'avoir un rendez-vous quelques semaines plus tard chez un excellent gynécologue à Strasbourg. On a dû attendre, c'est sûr, quelques semaines. Il y a eu de l'incertitude. Et lors de cette nouvelle échographie, voilà. Le constat, c'était que notre fille, qui est assise là ce matin, Clémence, grandissait bien, qu'elle était en bonne santé. Et on en était reconnaissant, et on en est toujours reconnaissant au Seigneur. Attendre, je conclue, attendre, c'est une des caractéristiques de nos vies. On ne maîtrise pas le rythme de cette attente. C'est pas toujours facile de comprendre le sens de cette attente, mais on peut avoir la certitude que Dieu agit. Et on a aussi la responsabilité de notre réponse. C'est valable pour nous, tous, chacune, chacun. C'est aussi valable pour nous en tant qu'Église, l'Église de Vendeuvre, l'Église de Christ. Nous attendons, depuis le départ de Jésus, lors de l'ascension, nous attendons le moment où il va revenir. Et c'est une des caractéristiques de l'Église, c'est d'être dans l'attente. Jésus a promis de revenir. De nombreux textes nous parlent de cette réalité. Quand on regarde les infos depuis quelques semaines, combien on aimerait que Jésus revienne, hein, qu'il revienne maintenant, pour mettre un terme aux guerres, pour mettre un terme aux massacres. Mais c'est Dieu qui reste le maître des horloges. On attend le retour de Jésus, peut-être qu'on se dit que on serait tellement mieux avec lui. On a l'impression de perdre notre temps ici. Mais à travers ce temps d'attente, Dieu nous prépare, Dieu nous forme, et Dieu prépare aussi son Église pour qu'elle grandisse en consécration, qu'elle grandisse en beauté. Nous attendons le retour de Jésus, oui. Nous pouvons le faire avec confiance, en étant actifs tous ensemble en tant qu'Église. Je vous propose de prier. Seigneur Dieu, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta souveraineté sur le cours de l'histoire, des événements, sur le cours de nos vies également. Combien nous pouvons être parfois submergés par l'inquiétude, par l'impatience, par l'impression de perdre notre temps lorsque nous sommes face à des situations que nous ne comprenons pas, ou face à des situations dans nos vies où nous devons attendre, où nous sommes dans l'incertitude. Aide-nous, Père, à fixer les regards sur ton Fils Jésus-Christ, qui a su reconnaître que c'est toi qui es le maître du temps, en disant que même lui est le Fils, que personne ne connaît le moment de la venue du jugement, à part le Père. Aide-nous à porter nos regards sur Jésus, qui a accepté cette période de préparation pendant 30 années. Aide-nous à porter nos regards sur Jésus, qui a avancé dans la confiance à son Père, y compris dans les moments les plus terribles de sa passion. Il a gardé cette confiance en toi. J'aimerais te remettre chacune et chacun des personnes présentes ce matin, chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, qui vit peut-être des temps de d'attente et d'incertitude, dans des domaines de la vie qui peuvent être très variés. Merci Père de les visiter, de les encourager, de leur faire sentir que tu es présent à leur côté, qu'ils peuvent placer une confiance pleine et entière en toi, parce que tu agis, parce que tu agis, parce que quand Jésus est présent, le royaume est présent, et parce que tu agis, oui, avec puissance, au bon moment, au moment favorable et opportun. Amen.
Merci Jeff pour ce message. Oui, nous sommes tous dans l'attente de quelque chose, chacun a son projet et nous préparons, nous attendons aussi que nos projets soient réalisés. Et une fois que c'est réalisé, on a encore d'autres projets et on est encore dans l'attente et ainsi de suite. Ben, et puis, on a aussi cette attente commune, le retour de Jésus-Christ, bien sûr. Et qui nous invite aussi à nous mieux préparer de sa venue aussi. Que le Seigneur en tout cas nous bénisse pour bien utiliser ce temps que Dieu nous donne. Hein? Voilà, merci encore, Jeff. Maintenant, c'est le temps des annonces. Rebecca, est-ce que tu as une annonce ?